Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Je vous ai réveillé Cyril, pardon. Place au journal des médias, qu'est-ce que vous avez? Il y avait un petit décalage, c'est pour ça, et j'ironise. Parfois j'explique aux auditeurs, auditrices, il y a un petit décalage, parce que nos moyens de liaison passent par les réseaux, et parfois il y a plus ou moins de réseaux, mais ne vous inquiétez pas, Cyril Lacarrière est très très bien réveillé. La preuve, qu'avez-vous au menu ce matin Cyril?
Aujourd'hui, on s'attarde sur le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. On parle d'une nouvelle chaîne pour les enfants sur YouTube et des 400 coups de Netflix.
Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Ils ont regardé TF1 hier soir, plus de 5 400 000 téléspectateurs étaient devant la série Les Bracelets Rouges, la deuxième place du podium pour France 2 et sa série également Meurtre au Paradis, regardée par 3 900 000 téléspectateurs. Et ensuite CM6 qui profite du filon de Funès avec Le Gendarme et les Gendarmettes qui a attiré près de 2 800 000 Français. Hier, c'était aussi le lancement de Qui veut gagner des millions à la maison sur TF1. Le jeu de Camille Combal a été regardé par un peu plus de 2 200 000 téléspectateurs, ce qui fait que TF1 est toujours derrière M6 à cette heure-ci. À noter, enfin, une bonne nouvelle pour nos camarades de France 5. Hier, l'émission C'est à vous a réalisé son record historique en nombre de téléspectateurs. Il y avait 2 109 000 Français devant l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5.
Et puis Cyril, vous vouliez également compléter les audiences de la conférence de presse d'Edouard Philippe de dimanche.
En effet, je vous parlais des bons résultats cumulés sur TF1 et France 2. Depuis, nous avons eu les scores des chaînes info et le niveau progresse fortement. En tout, ce sont près de 11 millions et demi de Français qui ont regardé Edouard Philippe et Olivier Véran durant les 2h15 de cette conférence de presse, ce qui rend la performance encore plus impressionnante. À noter enfin que plus de 2 millions en moyenne étaient à ce moment-là sur BFM TV, très très près de France 2.
Culture Média. Et Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par un classement très important pour les médias, justement, le rapport annuel de Reporters sans frontières.
Un classement important car il en dit long sur la situation de la presse dans le monde et l'état de certaines démocraties. Sur le podium, des habitués de la première place, la Norvège, la Finlande et le Danemark. La Norvège et la Finlande étaient déjà à ces places-là l'an dernier et c'est même la quatrième année d'affilée que la Norvège occupe la première place des pays qui respectent le plus la liberté de la presse. À l'autre bout du spectre, on ne va pas dire que c'est une surprise, la Corée du Nord. Pauline Aves-Mevel, la rédactrice en chef de RSF, nous livre les enseignements de ce rapport annuel.
Le classement mondial de la liberté de la presse, qui évalue tous les ans la situation du journalisme dans 180 pays, démontre en fait que les 10 prochaines années seront sans doute une décennie décisive pour la liberté de la presse, en raison de crises que nous avons identifiées, des crises qui affectent l'avenir du journalisme, une crise géopolitique, une crise technologique, une crise démocratique, une crise de confiance également et une crise économique auxquelles s'ajoute désormais une crise sanitaire. En fait, pour nous, aujourd'hui, nous entrons dans une décennie décisive pour le journalisme et le coronavirus est un facteur révélateur et multiplicateur.
La France, la France est toujours mal classée. Notre pays est en 34e position, coincé entre la Slovaquie et le Royaume-Uni. La représentante de RSF nous explique pourquoi.
L'année 2019 a été marquée par une hausse très inquiétante d'attaques et de pressions contre les journalistes. On a vu beaucoup de journalistes blessés par les tirs de lanceurs de balles de défense ou de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre ou bien agressés par des manifestants en colère pendant les manifestations. Il y a un autre phénomène très inquiétant, c'est le nombre croissant de cas d'intimidation judiciaire visant les journalistes d'investigation afin d'identifier leurs sources. Plusieurs d'entre eux, en 2019, qui enquêtaient sur des sujets sensibles, ont été convoqués par les services de renseignement.
Ce classement a bien sûr été établi avant la crise sanitaire qui frappe quasiment toute la planète. Alors que beaucoup de gens en France s'inquiètent des possibles réductions des libertés individuelles pour cause de surveillance accrue, nous avons demandé à RSF si cette situation était de nature à entraver encore davantage le travail des journalistes.
Le classement a été établi sur la base de données d'avant l'épidémie, mais il apparaît très clairement une corrélation avec la manière dont est respecté le droit à l'information pendant cette crise sanitaire. Et l'épidémie, on le voit nettement, accroît les inégalités entre les pays du point de vue de la liberté de la presse. L'enseignement, c'est que cette crise sanitaire amplifie les problèmes. Les régimes les pires en profitent pour pousser la répression encore plus loin et en faisant cela, ils mettent en danger la vie de leur population mais aussi des personnes dans l'ensemble du monde.
Le classement de Reporters sans frontières sera officiellement dévoilé ce soir en présence de l'économiste Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, et du lanceur d'alerte Edward Snowden, toujours réfugié politique à Moscou et aujourd'hui à la tête d'une association pour la liberté de la presse.
Cyril, tout autre sujet. Cette fois, vous nous parlez d'un lancement réussi.
Et cette mise en orbite réussie, c'est celle de Madeleine, la nouvelle offre de vidéo à la demande par abonnement de l'INA. Lancée depuis tout juste un mois, donc en pleine période de confinement, cette Madeleine compte déjà 50 000 abonnés. Un joli démarrage, même s'il faut rester prudent, car pour accompagner les Français confinés, l'INA avait décidé d'offrir les trois premiers mois d'abonnement. Toujours du côté de l'INA, une nouvelle chaîne va voir le jour sur YouTube. Générique qui a bercé mon enfance, L'île aux enfants fera partie des 1300 contenus de INA Kids, la nouvelle chaîne de l'INA sur internet, où on devrait également retrouver Bonne nuit les petits avec les infatigables Pimprenel, le nounours et Nicolas, ou encore Titus le petit lion.
Et puis une association qui va faire parler dans le monde des plateformes et du cinéma.
Quand on pense à Netflix, on pense avant tout aux séries. C'est là-dessus que la plateforme a fait sa réputation. Mais petit à petit, la plateforme américaine creuse son sillon côté 7e art. On l'a vu avec Roma d'Alfonso Cuarón et The Irishman de Martin Scorsese. Et voilà maintenant que Netflix s'attaque au cinéma d'auteur grâce à un partenariat avec MK2, un genre qui ne semblait pas l'intéresser jusqu'ici. Et cette association commence fort puisque dès vendredi, 12 films de François Truffaut seront disponibles sur Netflix. Les 400 coups, Dany Métro, Baiser volé ou encore L'inoubliable Jules et Jim. D'autres, beaucoup d'autres grands noms du cinéma vont venir garnir cette année le catalogue de Netflix. Charlie Chaplin, Jacques Demy, Alain René, Michael Haneke, David Lynch et même des plus jeunes comme Xavier Dolan. Une longue liste est prestigieuse. Une liste où on ne retrouve pour le moment que des hommes, mais on pourrait bientôt voir apparaître la principale réalisatrice de la nouvelle vague, Agnès Varda. Nous avons contacté Nathanaël Karmitz, le patron de MK2, pour lui demander comment il expliquait le changement de pied de son partenaire américain.
C'est cette capacité des plateformes, et Netflix en particulier, d'écouter la demande de leurs spectateurs et une envie qui était quand même récurrente. C'est que les gens qui aiment le cinéma, généralement, aiment aussi Netflix. Quand on aime Netflix et qu'on aime le cinéma, bah on aime aussi Truffaut, Chaplin et David Lynch. C'est vrai que Netflix ouvre un nouveau public, une nouvelle audience pour ses films, et que l'important et notre rôle chez MK2, c'est de les diffuser au maximum et au plus grand nombre. Et à ce titre, cet accord est très important pour ces films, cette diffusion et la transmission de ce patrimoine cinématographique mondial et français en l'occurrence.
En tout, ce sont 50 films qui vont progressivement arriver sur Netflix tout au long de l'année. De quoi ravir les cinéphiles parmi les 7 millions d'abonnés français à Netflix. Pour terminer ce journal, un clin d'œil à Jules et Jim de François Truffaut pour une chanson inoubliable.
Le balancement du rocking chair nous convie au plaisir de la chair.
Et cette chanson, ça commence à être au point.
Oui, c'est vrai, hein, Albert. On y va ?
Allons-y.
À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas sans public.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
C'était savoureux de passer le dialogue avant la chanson. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Culture Média qui continue évidemment dans un instant l'info média du jour avec la sortie d'un nouveau trimestriel papier. Ça s'appelle Omniscience. Nous serons avec sa rédactrice en chef. Mais d'abord musique avec...
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Elle a vu le jour en plein confinement. Vendredi dernier, elle s'appelle Omniscience, en deux mots. Et c'est une nouvelle revue trimestrielle scientifique sur papier. Ou plutôt un MOOC, contraction de magazine, de book, livre en français. Je dis ça pour Hélène Manarino. Le premier numéro est consacré aux 50 découvertes accidentelles qui ont changé notre vie dans les domaines de la technologie, de l'espace, de la médecine ou de l'histoire. Et parmi ces inventions dues au hasard, le micro-ondes, le post-it ou encore le Viagra. Pour en parler, nous sommes avec Karine Jacquet, elle est rédactrice en chef d'Omniscience. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Comment allez-vous, Karine? Et d'abord, où êtes-vous confinée? Dans votre journal? Non.
Non. Comme beaucoup de rédactions, beaucoup de personnes en France, on travaille de chez nous. On a la chance déjà de pouvoir encore travailler. On télétravaille et ça se passe bien.
Alors pourquoi ce format et pourquoi un MOOC? C'est un magazine qu'on ne jette pas. C'est ça l'idée.
C'est ça. L'idée, c'était de faire quelque chose de beau qu'on pouvait conserver, aussi à picorer, c'est-à-dire dans le sens où on peut le prendre par n'importe quel bout, choisir un thème, le lire, passer à un autre. Ça ne se veut pas comme une encyclopédie, dans le sens où on ne dit pas tout, mais ça donne déjà des informations et on pense que ça titille un peu la curiosité. Si un sujet nous passionne, on a envie d'en savoir plus. Donc c'est vraiment un magazine pour les curieux.
Omniscience, quel format, combien de pages, quel prix ?
144 pages, 9,90 €, un format presque carré, alors j'ai plus les dimensions en tête, mais il est presque carré, avec un dos carré, c'est-à-dire épais.
Oui, c'est-à-dire qu'on voit papier, sur la tranche. Un dos carré, c'est très beau
parce qu'on
peut, on peut le ranger dans l'étagère comme un livre et pas comme un magazine qu'on jette ensuite. Pourquoi la question évidemment que tout le monde se pose et qui nous a tellement intéressés en dépit même du sujet, pourquoi lancer un nouveau titre quand on sait à quel point le secteur de la presse et de l'édition se porte mal, et encore qui plus est en cette période de confinement ?
Pour plusieurs raisons. On s'est posé la question, faut être honnête. On a aussi hésité, c'est un peu logique. Donc pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que évidemment on ne l'a pas préparé 3 semaines avant le confinement, donc déjà il était dans les tuyaux, on va dire. C'est quand même une refonte d'un trimestriel qui existait déjà, donc avec des abonnés. Donc par honnêteté, il fallait aussi les servir, et donc le sortir. Et puis on s'est dit aussi que c'était peut-être un moyen de soutenir les kiosquiers qui, en cette période, même si 30% ont fermé, continuent leur activité pour nous divertir. Et puis dans cette période où c'est quand même très angoissante pour tout le monde, on s'est dit que c'était peut-être aussi une bouffée d'oxygène. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tendance à plus lire la presse, et pas forcément la presse que j'ai l'habitude de lire, parce que ça me vide la tête, ça m'ouvre d'autres horizons, voilà.
Pareil, donc, pareil que vous. Et hier soir, continuez.
Non, je vous en prie, allez-y.
Voilà, et hier soir je me faisais une réflexion, c'est que j'avais beaucoup plus de temps libre, parce qu'il n'y a plus de sport à la télé, il n'y a plus de foot à regarder et plus de Formule 1.
Exactement.
Et donc on a du temps encore plus pour lire. Comment se passe justement, vous parlez des kiosquiers, mais il n'y a pas que les kiosquiers, il y a aussi plein d'endroits dans lesquels on peut trouver les journaux, même certains supermarchés, et c'est tant mieux. Comment se passe la distribution de votre magazine en ces temps de confinement? On peut le trouver?
Alors qui le distribue? Il va être... les kiosquiers en général, je crois que les relais sont fermés, mais ça, je suis sans doute pas la meilleure personne de la société pour répondre à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va en mettre 15 000 exemplaires dans 4 500 kiosques partout en France. Et puis, il est aussi disponible sur le site fleuruspresse.com, bien évidemment, parce que quelqu'un qui ne le trouverait pas en kiosque pourrait quand même le trouver via notre plateforme, notre site.
Je voudrais qu'on dise un mot de votre éditeur et diffuseur de presse, Unique Héritage Média, UHM, qui se définit comme un pionnier de l'edutainment, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on a beaucoup de magazines pour les enfants et on a envie de les sensibiliser à que ça soit aux langues, avec un support qu'on a qui s'appelle Philip Hop, à l'histoire, avec des magazines comme Quelle histoire, des histoires vraies, aussi à la science, avec toute la gamme Tout comprendre junior, à l'actualité, avec Le monde des ados, à la lecture, avec Je lis déjà. Le but, c'est aussi de les divertir tout en leur apportant de la connaissance. C'est ludique et en même temps éducatif. Ouais, c'est vraiment le grand leitmotiv qu'on a.
Et encore, vous n'avez pas tout cité. Il y a le journal de Mickey, Quelle histoire,
National
Geographic Kids, Histoire vraie, Vanille,
voilà,
Petite Princesse, Picsou Magazine, auquel on va certainement abonner notre rédactrice chef, Lise Pressac, dont c'est l'anniversaire, Sorcière, Le monde des ados, Tout comprendre et Réponse à tout. Vous visez quel public pour Omniscience et pour les plus grands?
Oui, c'est pour les plus grands. Alors c'est difficile aussi de donner un âge parce qu'on n'est pas tous sensibles au même domaine, on n'a pas tous la même culture, on va dire les plus de 15 ans, parce que même si c'est un magazine qui n'est pas très bavard, quand vous le feuilletez, vous avez vu qu'on n'a pas des très longs textes, on essaye d'avoir un sujet par double, donc il faut quand même aimer un peu la lecture. On est dans un domaine qui est de la science, donc même si notre leitmotiv c'est aussi de vulgariser tant qu'on peut, on aborde quand même des sujets qui a priori peut-être n'intéresse pas tout le monde, mais au final, quand on lit et qu'on découvre l'histoire qu'il y a derrière ces inventions, on se dit que ça peut plaire à tout le monde. Donc, dans notre esprit, les plus de 15 ans sont tout à fait amenés à pouvoir lire ce magazine.
Et les
adultes, bien sûr.
Et comme je le disais en préambule, vous parlez de beaucoup de choses, et notamment du Viagra. C'est vrai que c'est toujours un petit peu mieux d'avoir 15 ans quand on parle de ces choses-là. On n'a pas encore parlé du contenu de Omniscience. Oui. Vous restez avec nous, évidemment, Karine Jacquet. On marque une pause. On vous retrouve juste après ça.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Karine Jacquet, elle est rédactrice en chef d'un trimestriel nouveau qui se lance, un trimestriel papier. Ça s'appelle Omniscience. Le premier numéro de 144 pages est sorti vendredi pour la modique somme de 9,90€, même pas 10€, pour apprendre plein de choses. Vous n'avez pas lancé ce magazine par hasard et pourtant votre premier numéro est consacré au hasard. Pourquoi le hasard ?
Parce qu'on est, comme je vous le disais tout à l'heure, on est des curieux. Et puis, on s'est aperçu que plein d'innovations qu'on utilisait fréquemment, voire tous les jours pour certaines, étaient complètement dues au hasard. Alors, des concours de circonstances, parfois le hasard pur, on ne s'attendait pas. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être une manière de traiter ces découvertes, ces innovations, sous cet angle-là. Parce que des livres qui recensent toutes les découvertes sur un siècle, sur une période, enfin, ou dans un domaine particulier, il y en a plein. Et là, en passant par le hasard, on s'est dit qu'il y avait des petites histoires à raconter. Ouais. Ça donne un côté ludique à l'histoire. On rentre pas forcément nécessairement dans l'application, mais on suscite la curiosité. Enfin, je trouve, du moins. Alors là, on a trouvé avec les équipes.
Alors là, pour le coup, la première invention, on peut rentrer quasiment dans l'application, c'est le micro-ondes. Raconter l'invention du micro-ondes.
Oui, alors on est en 1945 aux États-Unis dans un laboratoire qui travaille pour la défense. Donc on est encore pendant la guerre et bien évidemment, ils cherchent à développer des dispositifs de radar, on va dire. Mmh. Et il y a un chercheur, pour le citer, Percy Spencer, qui travaille sur un gros engin qui s'appelle le magnétron qui lui délivre des micro-ondes. Ça va lui permettre de donc repérer des appareils en vol, on va dire. Et lors d'un de ces tests, par hasard, il a une barre de chocolat dans une de ses poches et il constate que celle-ci a fondu. On est complètement dans du hasard, là. Pour le coup, il n'aurait pas eu la barre de chocolat, il n'aurait pas découvert cet effet secondaire.
Ça l'interpelle,
et il, comme tout bon scientifique, il a envie de tester, d'en savoir un peu plus. Donc, il teste avec d'autres aliments. Alors, des œufs, des grains de maïs, et ainsi de suite. Et il constate qu'en effet, ça les chauffe. C'est évident que maintenant, bon, pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement du micro-ondes, on sait que ça accélère, ça agite les molécules d'eau. Or, la température, elle est liée à l'agitation des molécules dans un aliment. Ouais. Et en outre, ça ne chauffe pas le contenant. Donc, c'est vraiment miraculeux, on va dire. Ça cuit sans nous brûler quand on veut le récupérer dans son contenant. Ouais. Alors, bien évidemment, le premier micro-ondes qui est mis en place, mais ça, c'est valable pour toutes les nouvelles technologies. Il est énorme, hein. Et d'abord, il est très, très cher. Il fait 1m80 de haut, 340 kilos. C'est évident. C'est évident qu'il n'est pas adapté pour tous les foyers. Donc, il va quand même falloir attendre les années 80, on va dire, pour qu'il entre dans les cuisines.
Alors, vous listez 50 découvertes qui sont le fruit du hasard. Oui. On trouve également le post-it. Là, j'adore cette histoire parce que, en fait, c'est juste de la colle qui colle pas tout à fait. Mais l'intelligence de la personne qui découvre ça, c'est dire, tiens, ça peut être très utile. Un truc qui colle et qui se décolle. Et alors, au chapitre médical, on trouve à la fois...
Mais c'est pas lui qui se le dit, en fait. C'est pas lui qui se dit ça.
C'est qui ?
Bah, parce que lui, il se plante, en fait. Ouais. Spencer Silver, encore un Américain, qui travaille dans une grosse société qui distribue encore les post-it, pour ne pas la citer. Lui, on lui demande de trouver un adhésif très collant.
Ouais.
Et il rate, en fait.
Il trouve un
adhésif repositionnable, mais c'est pas lui qui va vouloir le développer. C'est un de ses collègues qui est coincé tous les dimanches... avec son petit livre de quantique et tout ça, et il met des petits bouts de papier et il les perd à chaque fois, il ne sait plus où il en est et tout ça. Et il repense à cette invention, enfin, du moins à ce ratage, et c'est tous les deux où ils vont mettre au point le post-it, quoi.
Voilà.
Un marque-page repositionnable.
Et puis, puisque j'en parlais.
Ils étaient deux.
Puisque j'en parlais en préambule, le Viagra, que doit le Viagra au hasard ?
Le Viagra, le développement de cette petite pilote bleue, en fait, c'est un effet secondaire au départ, parce qu'en 96, quand le laboratoire, on n'a pas le cité américain, tente de développer un médicament, au départ, lui, son objectif, c'est de soigner l'angine de poitrine, donc une maladie cardiaque qui est due au rétrécissement des artères, hein, chargée d'alimenter le cœur en oxygène, pour expliquer un petit peu. Et puis, ils s'aperçoivent, parce que bien évidemment, quand on rentre dans un protocole protocole comme ça, ben, on a un suivi des patients. Et beaucoup d'hommes, notamment, rapportent un effet secondaire pour le moins étrange, à savoir qu'ils ont des érections plus longues, parfois plusieurs jours après la prise du médicament. Donc là, forcément, ça interpelle, sachant que jusqu'à présent, et même si on tente de soigner ce trouble depuis la nuit des temps, on n'avait jusqu'à présent rien. Et donc le laboratoire étudie un peu plus cet effet secondaire insoupçonné, qui va en effet avoir un effet bénéfique sur les troubles érectiles et le développe. Ça sort en 98, ça a été assez rapide finalement avec le succès qu'on lui connaît maintenant.
Exactement. Karine Jacquet, combien vous êtes pour confectionner ce magazine? Il nous reste 15 secondes.
Dans la rédaction, on est 4, 3 filles et un garçon, plus des pigistes.
Voilà. Formidable. Est-ce qu'on vous a dit...
Mais il faut parler de tous les soutiens, hein, tous les services annexes aussi qui ont participé à l'élaboration de ce magazine.
Il me reste 10 secondes pour poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait de la radio?
Non.
Parce que vous avez vraiment une voix à faire de la radio. Merci beaucoup, Karine Jacquet.
C'est gentil.
Je rappelle,
merci
c'est
beaucoup.
Pas gentil, c'est sincère. Rédactrice en chef du trimestriel Omniscience, le premier numéro est sorti vendredi, 9,90€ seulement. Merci d'avoir été avec nous en direct. On est un petit peu à la bourre. Juste dire que Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, on va parler d'un documentaire Tous surveillés, 7 milliards de suspects, 7 milliards dont vous. Et puis nous serons avec la comédienne Astrid Veillon, indispensable. 3 films à pas manquer en VOD et la découverte d'un jeune romancier. Europe 1, 10h. Le flash Marguerite Lefebvre.
À 3 semaines du déconfinement, la France est encore loin de l'immunité collective. On estime qu'avec 70% de personnes contaminées, le pays ne risque plus de seconde vague. Et bien ce matin, Europe 1 vous révèle une étude de l'Institut Pasteur. Seuls 5,7% des Français auraient été contaminés par le Covid-19. Moins de 6% de la population, donc le niveau est bien trop insuffisant pour garantir cette immunité. Pas assez de contamination, mais déjà 20 000 morts. C'est plus que toutes les grippes saisonnières, plus que la canicule de 2003. Le nombre de malades à l'hôpital, en revanche, est toujours en baisse. C'est le signe le plus encourageant. 37 000 personnes sont déjà sorties guéries des hôpitaux. 280 000 personnes se sont portées volontaires pour aider les agriculteurs dans les champs. Actualisation du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Didier Guillaume qui a par ailleurs lancé un appel tout à l'heure. Il souhaite que 100% du muguet soit vendu la semaine du 1er mai. La vente à la sauvette, précise-t-il, ne sera pas tolérée. 35 députés Les Républicains appellent à revenir à un fonctionnement normal de l'Assemblée. Depuis le début du confinement, les députés siègent en format restreint. 3 représentants de chaque groupe parlementaire, par exemple, pour l'examen du budget la semaine dernière. Procédure dégradée, selon ces députés, les Républicains. Aux États-Unis, décision radicale annoncée la nuit dernière par Donald Trump. Le pays va suspendre temporairement toute immigration. Objectif, protéger les emplois des Américains. Israël est peut-être enfin sur la voie d'un consensus. Après 16 mois de crise politique, Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz ont réussi à accorder leur violon. Ils vont tenter de former ensemble un gouvernement d'union nationale. Les cours du pétrole ont légèrement rebondi ce matin après la chute historique constatée hier. Le baril coté à New York est tombé sous la barre des 0$. Autrement dit, les stocks sont pleins et tout le monde cherche à s'en débarrasser. À l'instant, le baril coté à Londres retombe lui aussi en dessous de 0. Une crise pétrolière qui fragilise encore un peu plus les places boursières. La bourse de Paris a ouvert dans le rouge ce matin, moins 1,3%. Le CAC est toujours en dessous des 4500 points. Enfin, nouvelle annulation en raison de la pandémie. La fête de la bière de Munich n'aura pas lieu à la rentrée. Elle devait s'ouvrir le 19 septembre prochain. L'Oktoberfest rassemble chaque année près de 6 millions de visiteurs pendant 3 semaines. Sans aucun lien, c'est l'heure de retrouver Mélanie Gomez, notre spécialiste santé, qui répond toutes les heures aux questions que vous vous posez sur le coronavirus. Bonjour Mélanie.
Bonjour Marguerite, bonjour à tous.
Bernard a 48 ans, il habite dans les Landes. Je voudrais savoir si je suis immunisée. J'ai eu une sorte de grippette mi-février, avec un peu de chance c'était ça, mais est-ce que je peux faire un test, nous demande Bernard.
Alors Bernard, c'est une question qu'on nous pose évidemment de plus en plus ces derniers temps. Vous êtes nombreux à vouloir savoir si vous allez pouvoir passer un test pour savoir si vous êtes immunisé. Donc vous voulez savoir si vous pourrez passer un test sérologique, c'est-à-dire ceux qui permettent, grâce à un échantillon de sang, de voir si vous avez ou non dans votre organisme des anticorps contre le coronavirus. Alors à ce stade, sachez que ces tests ne sont pas déployés en France pour tout un chacun. Il en existe déjà plusieurs sortes qui ont été commercialisés, même très vite par plusieurs sociétés, mais ils sont encore en cours d'évaluation par les autorités autorités sanitaires. Les experts sont en train de regarder, par exemple, quels sont ceux qui sont le plus efficaces. C'est quand même le minimum de ce qu'on attend d'eux, évidemment. Donc, en attendant, si vous voyez des choses qui circulent, des offres sur Internet, c'est possible. Surtout, n'achetez pas ce genre de test. Pour l'instant, ce n'est pas prudent tant qu'aucun n'est homologué officiellement, car vous l'avez compris, il pourrait s'avérer non efficace ou alors même vous rassurer faussement.
Merci beaucoup Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, que l'on retrouvera toute la journée pour répondre à toutes vos questions, celles que vous nous posez chaque jour sur les réseaux sociaux. Il suffit de mentionner le hashtag Radio Ouverte ou bien par téléphone également. C'est au 3921.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. Merci également à Mélanie Gomez. Merci. On vous retrouve de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. On va recevoir le réalisateur Sylvain Louvet dans quelques instants pour parler de son documentaire Tous surveillés, 7 milliards de suspects, 7 milliards dont peut-être vous. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino et puis la comédienne Astrid Veillon, héroïne de la série policière Tandem. C'est son retour sur France 3 et nos indispensables du jour, 3 films et un livre.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Sylvain Louvet.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur et journaliste et vous signez le documentaire qui passe ce soir sur Arte à 20h50. Ça commence plutôt Arte, c'est 20h50. Tous surveillés, 7 milliards de suspects, une enquête planétaire qui vous a conduit en Israël, aux États-Unis, en Chine, en France également évidemment. Quel a été votre point de départ ?
Bah, en fait, au départ, je me suis intéressé au déploiement massif des dispositifs de surveillance, notamment en Chine, pour réprimer la minorité musulmane, donc les Ouïghours, dans une province qui est située au nord-ouest de la Chine, qui s'appelle le Xinjiang, qui est en fait devenu un espèce de laboratoire technologique à ciel ouvert où l'on appose, la Chine, le régime, appose des QR codes à l'entrée des portes des bâtiments, où effectivement les policiers utilisent une application qui permet de classer la catégorie de personnes comme suspects ou non. Et en fait, je me suis intéressé à cela en me disant, bah, tiens, peut-être qu'il y a un sujet, est-ce que effectivement la Chine exporte son savoir-faire à l'étranger, et est-ce que nous aussi, de la même manière que les Ouïghours sont fliqués, est-ce que nous aussi on peut l'être? Et effectivement, en enquêtant, je me suis aperçu que justement ce marché colossal qu'on appelle le marché de la peur effectivement a pris ces dernières années une ampleur démesurée, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Israël.
C'est vous qui l'appelez le marché de la peur, d'autres gens l'appellent le marché de la sécurité.
Absolument, mais c'est ce qu'on démontre dans le documentaire, c'est que finalement ces dernières années, sous couvert de lutte contre le terrorisme ou en l'occurrence actuellement pour lutter contre une pandémie, les grandes puissances se sont lancées dans une inquiétante course aux technologies de surveillance dopées par le progrès de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que au départ, il y a effectivement toujours une intention qui est louable, qui est celle de protéger les citoyens, éviter par exemple une contamination. Mais effectivement, dans un deuxième temps, une fois que ces technologies sont expérimentées, testées, eh bien, elles sont généralisées dans un deuxième temps et elles perdurent dans le temps. Ouais. Et effectivement, la technologie en soi n'est ni bien ni mal, mais c'est l'utilisation que l'on en fait. Et quand derrière, effectivement, on a peut-être une volonté de régime, comme peut l'avoir la Chine, par exemple, une volonté d'imposer un contrôle social, etc., c'est là où, effectivement, cela devient inquiétant et c'est là où, effectivement, on peut appeler ce marché le marché de la peur.
Exactement. On va entendre la présentation que vous faites du sujet.
Nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Celui de tout voir, tout entendre, partout, tout le temps.
Tout voir, tout entendre, partout, tout le temps, vous n'êtes pas un peu complotiste ?
Non, surtout que j'ai monté une association de lutte contre les fake news, alors je fais très attention à justement ne pas l'être.
Je vais vous dire le sens de ma question. Depuis que je suis journaliste, dites-moi. Je vais vous raconter, j'ai la carte de presse depuis 85, et depuis que je suis journaliste, j'étais journaliste actuel, soi-disant, il y avait des caméras partout dans Paris qui filmaient tout. Et je vais vous donner un seul exemple, le jour de la mort de Diana dans le tunnel sous le pont de l'Alma, il n'y a eu aucune image de l'accident de Lady Diana, alors qu'elle était passée place de la Concorde, devant l'ambassade des États-Unis et sur les quais de l'Alma. Donc ça fait juste 30 ans que j'entends dire qu'on est filmé partout, tout le temps, et on ne voit pas les images. Alors soit ces images n'existent pas, soit ils ne veulent pas les sortir, ou alors toutes les caméras sont tombées en panne le même jour. Mais il y a une de ces explications qui est la bonne.
Alors on a changé d'époque hein, quand même.
Ça ne m'a pas échappé.
C'est vrai que là aujourd'hui...
Si vous voulez que je vous parle de Nice, parce que vous êtes allé à Nice, quand il y a eu les attentats du Bataclan, je me souviens très très bien que le maire de Nice, Christian Estrosi, avait dit « ça ne pourrait jamais arriver à Nice, car à Nice, nous avons un réseau de 2000 caméras ». Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un camion...
Il a même dit « les frères Croachine n'auraient pas passé trois carrefours ».
Exactement. Et finalement, le type, il a fait des repérages pendant deux jours, et il y a eu 86 morts. Donc j'ai l'impression d'entendre ça, qu'on est filmé tout le temps, que c'est une catastrophe, depuis des années et des années. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument, qui est plutôt d'ailleurs une question plutôt qu'un argument?
Qu'aujourd'hui, c'est très simple, c'est plus de la science-fiction. Je ne sais pas si vous avez vu, pendant la crise du coronavirus, le maire de Nice, Christian Estrosi, a mis en place des drones, donc munis d'un haut-parleur, qui signaient le bord de mer pour ordonner aux gens de rentrer chez eux.
Bien sûr, ils faisaient ça sur la croisée. Ils font ça sur la promenade des Anglais, il n'y a strictement aucun danger. Ils font absolument ça dans les quartiers populaires, par exemple. C'est tout le temps des images pour la télé. Chaque fois qu'il y a des images comme ça, c'est sur les champs, sur la grande place de Bordeaux ou sur la promenade des Anglais, où il n'y a jamais aucun incident.
Sauf que de manière très concrète, nous, l'année dernière, on a assisté au premier test, à la première expérimentation de reconnaissance faciale pendant le carnaval de Nice. Ouais. Il se trouve que, en fait, peu après l'attentat, justement, qui a eu lieu en juillet 2016, l'attentat au camion, Christian Estrosi a effectivement décidé de miser sur la technologie pour résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire que il a effectivement expérimenté cette reconnaissance faciale, mais il a également passé une convention avec Thales, donc géant de l'armement, une convention qui comprend en fait 13 entreprises qui testent actuellement à Nice des technologies extrêmement intrusives et liberticides, qui soient par exemple des détecteurs à émotion dans les transports, des applications de vigilance citoyenne, qui sont en fait des applications de dénonciation citoyenne. Et effectivement, au cours de l'enquête, ce qu'on découvre, c'est que notamment derrière l'entreprise qui commercialise cette technologie justement de reconnaissance faciale à Nice, il y a une entreprise israélienne qui utilise la même technologie pour surveiller des Palestiniens en Cisjordanie, et dont certains membres ou conseillers de la firme sont des anciens du Mossad ou du contre-espionnage israélien. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression que cette évolution, on peut ne pas la voir, mais parce que en réalité, elle est invisible. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a quelques années, effectivement, l'installation des caméras était quelque chose d'identifiable, puisqu'on les voyait un petit peu fleurir au feu rouge, devant les écoles, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de manière totalement décomplexée, mais de manière insidieuse. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce film, c'est parce que j'avais vraiment envie que les gens prennent conscience que petit à petit notre monde se rapproche de plus en plus des films de science-fiction des années 90-2000. Ouais. Vous avez aujourd'hui...
Attendez, parce que sinon, je vais juste faire entendre un extrait puisque vous en parlez. La ville de Nice est allée chercher sa technologie en Israël dans la société Anyvision. Alors, on n'a pas besoin de vous demander ce que vous pensez de cette technologie. Il suffit d'écouter la présentation de la société et la musique anxiogène.
C'est en banlieue de Tel Aviv, derrière les parois vitrées de ce bâtiment, que le logiciel testé à Nice a été mis au point. Créée en 2015, la start-up israélienne Anyvision a été l'une des premières à se spécialiser dans la reconnaissance faciale. Elle fait aujourd'hui partie des leaders mondiaux dans le domaine.
On se croirait dans Faites entrer l'accusé.
c'est drôle. Non, mais c'est très sincèrement, je ne suis pas du tout technophobe.
Non, mais quand on voit votre sujet, soit il y a de la musique anxiogène, quand il y a des gentils, il y a la musique gentillette, ou soit les gens, comment dire, votre reportage, je le reproche pas, mais votre reportage est extrêmement orienté.
Non, il y a une différence, je pense que vous êtes journaliste, vous le savez, il y a une différence entre un angle et un sujet qui serait orienté. C'est-à-dire que mon angle était très simple. Moi je suis parti au tout départ sans a priori. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, encore une fois, je ne pense pas que la technologie soit quelque chose de mal au fond. Simplement, il faut savoir quand même que la reconnaissance faciale, et c'est aussi ce que l'on montre dans le film, et c'est vraiment purement factuel. Cette reconnaissance faciale a des limites. C'est-à-dire que, ça a été prouvé aux États-Unis dans plusieurs études, elle ne fonctionne pas bien, par exemple, sur les personnes de couleur. Il y a une étude américaine qui prouve qu'effectivement la marge d'erreur,
bien
par
sûr,
exemple,
mais là encore
10% plus élevée.
Je vais donner juste un exemple. Quand vous dites ça, il y a une marge d'erreur, mais jamais personne, aucun juge ne va mettre quelqu'un en prison parce que la reconnaissance faciale s'est trompée. C'est comme quand on se trompait sur les empreintes digitales. Évidemment que parfois il y avait des petites erreurs. On l'a même vu avec ce pauvre Portugais qui a été pris pour Dupont de Ligonnès. Mais on met pas des gens, Joao, mais on met pas les gens en prison pour ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors je vous invite à effectivement vous renseigner et regarder ce qui se passe aux États-Unis. Il y a déjà des personnes qui ont porté plainte parce qu'elles avaient été accusées à tort par un logiciel de reconnaissance faciale. En fait, aujourd'hui ce marché-là, effectivement. Et encore une fois, c'est vraiment pas un sujet technophobe. C'est vraiment un sujet qui est factuel. Aujourd'hui, quand on voit le développement massif des technologies de surveillance en Chine, mais aussi aux États-Unis, on est vraiment en droit de se poser la question de savoir vers quel avenir, vers quel futur on va.
Je suis obligé de marquer une pause parce qu'il faut qu'on marque une pause. En revanche, votre partie en Chine est absolument terrible. Ce que vous montrez, on en parle juste après avec vous, Sylvain Louvet. Je rappelle, tous surveillés, 7 milliards de suspects. C'est ce soir sur Arte et il est avec nous sur Europe juste après ça.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Sylvain Louveil, les réalisateurs, journalistes, et ils signent ce soir le documentaire qui passe sur Arte à 20h50. Tous surveillés, 7 milliards de suspects. On a parlé de la France, on a parlé de l'Europe, mais il faut parler de la Chine parce que là, c'est réellement absolument terrible. D'abord, ça commence ainsi. Vous racontez ce qui se passe en Chine comme une politique fiction.
Imaginez une société où plus personne n'aurait peur, car la technologie aurait permis de diviser le crime par deux. Un pays où les vols à la tire auraient quasiment disparu, où les citoyens auraient si bien intégré la surveillance des caméras qu'ils en oublieraient leur présence. Dans cette société idéale, plus aucun piéton ne traverserait au mauvais moment, sous peine de voir son visage s'afficher sur un écran de l'autre côté de la rue. Dans cette société idéale, les caméras seraient capables d'identifier les criminels, même de dos, à leur simple démarche. Dans cette société idéale, l'intelligence artificielle aurait permis à un homme de réaliser son rêve le plus fou, prendre le contrôle total d'1,4 milliard de personnes.
Avant qu'on dise à quel prix ils ont obtenu tout ça, les Chinois, il n'y a vraiment plus de vols à la tire en Chine ?
Ça a été divisé par deux. Ça c'est effectivement. C'est-à-dire qu'en fait,
vous dites la criminalité est divisée par deux dans le texte et plus de vols à la tire.
En fait, si vous voulez, en Chine, pendant des années, il y avait des gros problèmes, justement, de vols à l'arraché, de vols dans la rue, par exemple, ouais. De vélos, c'est-à-dire de la petite criminalité. Effectivement, cette petite criminalité en Chine a quasiment disparu. Ouais. Et effectivement, on peut attribuer ça à l'installation de caméras, reconnaissance faciale, mais, technologie de surveillance.
Mais, à quel prix? Racontez le crédit social, le système de notation par points, parce que là, réellement, ça fait froid dans le dos.
Bah effectivement, c'est vrai que depuis cette année, donc il y a un système en Chine qui est un système de notation des citoyens qui permet en fait de distribuer les bons et les mauvais points et qui est obligatoire. C'est-à-dire que effectivement aujourd'hui tous les Chinois y sont soumis et dès que vous franchissez la ligne rouge, ce que les Chinois en tout cas considèrent comme la ligne rouge, c'est-à-dire par exemple dans certains villages ça va être brûler des ordures, ça va être organiser une fête que les gens considèrent comme illégale, etc. Et bah vous perdez des points et ces points vont vous pénaliser dans votre société, dans votre vie de tous les jours. Donc ça veut dire que effectivement une fois que vous aurez accumulé des mauvais points, ben vous ne pourrez plus prendre l'avion, vous ne pourrez plus souscrire à un prêt. Et ce système-là est aujourd'hui rendu obligatoire en Chine.
Ouais, il y a plus de 20 millions de citoyens chinois, dites-vous, qui sont mis sur la liste noire. Et balancer son voisin, c'est encore pire, permet également de gagner des points. Xi Jinping, pardon si je prononce mal son nom, qui nous écoute, a piqué l'idée du crédit social à un chercheur chinois. Et vous avez retrouvé ce chercheur, il s'appelle Lin Juye. Vous l'avez retrouvé. Exactement. Et vous avez réussi à le faire parler.
L'éducation est nécessaire. Le système de crédit social est le meilleur moyen de gérer efficacement une société. Avec cela, on peut non seulement contrôler les risques financiers, les risques bancaires, mais aussi rétablir l'éducation morale, l'honnêteté. Les comportements vertueux, la résolution des problèmes par le crédit social, ce n'est pas l'envoi en prison quand on a enfreint les lois. C'est le regard du reste de la société qui trouve que votre attitude n'est pas bonne.
Et le plus fou, c'est que vous dites que ce crédit social pourrait s'exporter, que certains pays sont intéressés, le Chili, le Vietnam, y compris en Europe ou en Pologne. Alors, il y a une partie très forte dans votre sujet quand vous avez pu filmer dans la province de Xinjiang, là où vit la minorité ouïghour, minorité musulmane. Quand je dis que vous avez pu, c'est pas une façon de parler. Vous avez été suivi par plusieurs véhicules. Est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce que vous avez eu peur de ne pas pouvoir rentrer en France ?
Bah, disons que c'est des conditions effectivement stressantes de tournage. Après, c'est pour ça que je me suis battu avant de partir pour pouvoir obtenir un visa presse, parce que ça c'était hyper important et sinon ça aurait été effectivement un enfer de pouvoir tourner là-bas. Donc on a alterné les moments de stress et les pauses dans le tournage, parce qu'en fait on a été suivi en permanence. On a été suivi. Il y avait des agents qui nous ont suivis sur le parking de notre hôtel. Dans notre hôtel, parfois on rentrait dans nos chambres, on voyait effectivement des policiers sortir de nos chambres. Donc c'est effectivement pas des conditions de tournage habituelles. Moi j'avais tourné déjà trois fois en Chine avant d'aller là-bas et effectivement c'était la première fois que ça m'arrivait. Ce qui a été compliqué au Xinjiang, c'est qu'on a essayé d'aller filmer des camps justement de rééducation, ouais. où 1 million de Ouïghours sont aujourd'hui détenus, et effectivement on a été arrêté dans la rue, on nous a demandé d'effacer les images et on a fait ce qu'on a pu. On est parti avec, pour tout vous dire, des cartes mémoire dans les chaussettes, et puis on a pris le premier avion qui décollait. Donc ça a été des conditions assez particulières.
Dites, forcément. Pas le coup de la carte mémoire dans les chaussettes, qu'après on pourra plus le faire. Actuellement, la Chine, la Corée, Taïwan utilisent des systèmes de géolocalisation à grande échelle. Je parle de la crise du coronavirus. Sauf que les faits sont là. Hier soir, la France a passé la barre symbolique des 20 000 morts du Covid. En Corée, ils en sont à 237, 100 fois moins. Mais là-bas, en Corée, on est pisté. Ça fait réfléchir. 75% des Français se disent favorables aux outils de traçabilité. Et vous ?
Écoutez, moi c'est simple, c'est exactement la discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait,
alors je vais le dire différemment parce qu'il nous reste 30 secondes. Si on est tracé, ça sera volontaire. Allez-vous tracer votre portable dans le cas de la crise du Covid, Sylvain Louvet ?
Alors moi, très très sincèrement, absolument pas. Pourquoi ? Parce que en fait, cette application Stop Covid, au départ, on nous dit qu'effectivement les données seront anonymisées, que ce sera provisoire, que l'algorithme sera ouvert, mais rien. Encore une fois, rien ne nous garantit que ce dispositif, une fois qu'il aura prouvé son efficacité, ne perdurera pas dans le temps et ne sera pas utilisé à d'autres fins. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce documentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il y a en technologie de surveillance, ce qui a tendance à être provisoire au départ, perdure dans le temps. Et c'est pour ça que non, je ne le ferai pas.
Je souris parce que je vous entends taper sur votre table. Merci beaucoup Sylvain Louvet. On a un très bon son ici. Je rappelle, merci. Tous surveillés, 7 milliards de suspects. Documentaire ce soir signé par vous sur Arte à 20h50 et déjà disponible en replay. On va retrouver Hélène Manarino et son journal de la culture, mais d'abord musique avec Mika, le titre Grace Kelly sur...